VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Oui, bonjour à tous. Bagassi Koura et Michel Joseph en votre compagnie ce matin. Bienvenue à cette édition du mercredi 29 avril 2015. Au sommaire ce matin,
l'armée nigériane affirme avoir libéré 200 filles et 93 femmes qui avaient été enlevées par le groupe Boko Haram.
Au Niger, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours suite à l'attaque perpétrée par Boko Haram le 25 avril contre un détachement des forces de défense sur l'île de Karamga dans le lac Tchad.
Au Togo, le président Faure Gnassingbé rempile pour un nouveau mandat. Il a été réélu par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre.
Manifestation à Baltimore, ici aux États-Unis. Barack Obama condamne les violences, estimant qu'il n'y avait aucune excuse.
Toujours aux États-Unis, plaidoyer ce mardi devant la Cour suprême pour ou contre le mariage des homosexuels.
Et hors de la Cour, opposants et supporters du mariage homosexuels se sont également fait entendre.
Il a déjà été déterminé que Dieu a dit que c'est entre un homme et une femme. Nous ne pouvons pas être hypocrites en prêchant la démocratie et les droits humains pour le reste du monde et refuser la même chose à nos propres citoyens.
Ne manquez pas la minute éco et les sports, mais avant le journal.
L'armée nigériane affirme avoir libéré 200 filles et 93 femmes mardi. On ne sait pas encore s'il s'agit des écolières enlevées il y a un an. Le porte-parole du ministère de la Défense nigériane, le major général Chris Olukolade, a confié à la VOA que les otages ont été retrouvés dans 3 camps séparés dans le bastion du groupe extrémiste Boko Haram.
L'intention est de débarrasser les forêts de toute base terroriste. Cette place est connue comme étant leur sanctuaire. Cette opération vise particulièrement cette forêt. Les troupes les attaquent de toutes les directions, les forces aériennes et terrestres sont impliquées et la mission se poursuit.
Voilà, c'était le major général Chris Olukolade du Nigeria. Au Niger, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours suite à l'attaque perpétrée par Boko Haram le 25 avril contre un détachement des forces de défense sur l'île de Karamga dans le lac Tchad. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Massaoudou Assoumi, a donné hier le bilan de cette attaque.
Le bilan provisoire est le suivant. Côté forces de défense et de sécurité, 46 morts, 9 blessés, 32 portés disparus. Côté ennemi, 156 terroristes tués. 28 habitants de l'île ont été également assassinés par les terroristes. Le gouvernement et le peuple nigérien sont particulièrement horrifiés par cette ignominie. Des opérations de ratissage avec des moyens terrestres et aériens sont en cours dans le secteur pour retrouver les éléments des FDS portés disparus, rechercher et mettre hors d'état de nuire les auteurs de cet acte ignoble dont la cruauté est sans égale.
Voilà, c'était le ministre nigérien de l'Intérieur, Massaoudou Oussami.
Plus de 150 Maliens ont péri dans les récents naufrages de migrants en Méditerranée, dont celui d'un chalutier le 19 avril au large de la Libye qui a fait plus de 700 morts. Claire Morin-Gibourg.
Selon le communiqué du ministère des Maliens de l'Extérieur, 156 Maliens ont été identifiés parmi les migrants noyés dans la Méditerranée. La plupart des victimes sont originaires de la région de Kaye, frontalière avec le Sénégal. Bamako a mis en place une cellule de crise en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Office des migrations internationales. Les proches sont priés de se rapprocher des autorités maliennes pour transmettre les filiations des personnes qui pourraient être concernées. 9 jours après cette tragédie, dans laquelle ont également péri des dizaines de Sénégalais, le gouvernement du Sénégal a mis en place une cellule de crise dotée d'un numéro vert pour informer les proches des disparus. Profitant du chaos en Libye, des migrants cherchent à rejoindre clandestinement l'Europe, en particulier l'Italie. Leur traversée est souvent périlleuse, à bord de navires vétustes et surchargés. Ainsi, des milliers de personnes ont été englouties par l'océan.
Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé a été réélu par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre, selon la commission électorale togolaise. L'abstention s'élève à 40% contre 35,32% à la précédente présidentielle de 2010.
Des dizaines de milliers de Gabonais ont accueilli hier à Libreville le cercueil d'André Baobab, dit Amo, grande figure de l'opposition, décédé le 12 avril au Cameroun. Les précisions de Lionel Gaïma.
Des milliers de personnes, dont beaucoup étaient en larmes, ont accompagné le cercueil de l'opposant dans un immense cortège allant de l'aéroport jusqu'au stade du quartier populaire de Zeng Ayong à Libreville. Ancien puissant ministre de l'Intérieur, André Baobab, était passé dans l'opposition à la mort d'Omar Bongo, resté 41 ans au pouvoir. Candidat à la présidentielle de 2009, il avait contesté la victoire du fils, Ali Bongo Ondimba, et s'était proclamé vainqueur du scrutin. Il était ensuite tombé malade. Ses partisans accusent le régime de l'avoir empoisonné. L'annonce de son décès a été suivie de violentes manifestations au cours desquelles l'ambassade du Bénin à Libreville a été incendiée. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui au siège de son parti, l'Union nationale, puis le corps sera transféré à Oyem, son fief, dans le nord du pays. Sa dépouille sera acheminée vendredi vers sa ville natale de Medouneux pour des obsèques dans l'intimité familiale.
La force onusienne en Centrafrique devrait recevoir rapidement des drones et des hélicoptères, a annoncé hier Hervé Latsou. Il est le chargé des opérations onusiennes de maintien de la paix au terme d'une visite de 4 jours en Centrafrique. Félix Yepassis Zembrou.
Les casques bleus seront dotés de drones pour la surveillance, a déclaré Hervé Latsou lors d'une cérémonie à Bangui. La MINUSCA compte actuellement 8500 soldats et 1484 policiers. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'une année le mandat de la MINUSCA et porté le nombre de casques bleus à 10 750 soldats et 2 080 policiers d'ici le mois d'août. La présence de 3 forces internationales, françaises, européennes et onusiennes, a permis de stabiliser la situation sans réussir à pacifier l'ensemble du territoire. Le Forum national de réconciliation doit se réunir à Bangui à partir de lundi. Il doit rassembler plus de 600 représentants de tout le pays pour trouver des solutions durables à la crise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama a condamné les violences à Baltimore, estimant qu'il n'y avait aucune excuse. Il a aussi convenu que les États-Unis étaient confrontés à une crise latente avec la police, notamment dans ses relations avec les Noirs. Jean-Roger Bion.
Nous avons vu trop d'exemples d'interactions entre la police et des gens, surtout des Afro-Américains, souvent pauvres, qui soulèvent des questions troublantes, a déclaré hier le président Obama dans une conférence de presse à la Maison-Blanche. La toute nouvelle ministre de la Justice, Loretta Lynch, qui a prêté serment lundi, a condamné ce qu'elle a qualifié de violence insensée. Larry Hogan, gouverneur du Maryland, a décrété l'état d'urgence et Stephanie Rowling Blake, maire de Baltimore, a annoncé un couvre-feu nocturne d'une semaine. Lundi, de nombreux jeunes, dont des lycéens, s'en sont pris aux forces de police, lançant des briques, cailloux ou encore des bouteilles. Ils ont pillé des commerces et incendié des voitures. C'était peu après l'inhumation de Freddie Gray, ce jeune noir de 25 ans est mort après avoir été arrêté et embarqué dans un fourgon de police. Une enquête a été ouverte et la police promet plus d'informations pour le vendredi 1er mai sur la mort de Freddie Gray.
Voilà, 3 jours de deuil national au Népal pour les victimes du tremblement de terre de samedi qui a fait 5 000 morts. Et selon les Nations Unies, la catastrophe a affecté 8 millions de personnes, dont 1,4 million en besoin de nourriture.
Selon les médias indonésiens, 7 étrangers et 1 Indonésien reconnu coupable de trafic de drogue ont été exécutés malgré les protestations. Ces médias rapportent qu'ils ont été mis à mort par un peloton d'exécution tôt ce mercredi matin. Les étrangers comprenaient 4 Africains, 2 Australiens et 1 Brésilien.
Voilà, les États-Unis affirment que des navires de guerre iraniens et des avions de surveillance ont ouvert le feu en direction d'un cargo battant pavillon des îles Marshall dans le détroit d'Ormuz, dans les eaux territoriales iraniennes. Un haut responsable américain a déclaré que le cargo, le MV Maersk Tigre, était en transit dans le détroit vers le golfe Persique mardi sur une route maritime internationalement reconnue au moment de l'incident.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a remplacé mercredi son héritier au trône, le prince Mokhran, par le ministre de l'Intérieur Mohamed Ben Nayef, qui était deuxième dans l'ordre de succession. Selon l'AFP, un décret royal précise que le prince devient futur prince héritier. Le prince Mohamed Ben Salman conserve par ailleurs ses fonctions de ministre de la Défense.
Et puis pour terminer, la Cour suprême des États-Unis examine aujourd'hui l'injection létale comme méthode d'exécution dans un débat déterminant sur la peine de mort pour le seul pays occidental qui l'utilise encore en avril 2008 dans sa décision Bayes contre Ruiz. La plus haute juridiction du pays avait jugé l'injection mortelle conforme au 8e amendement de la Constitution qui proscrit toute punition cruelle et inhabituelle.
Et tout de suite, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Une conférence internationale de 4 jours sur le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage en Afrique a débuté lundi à Brazzaville, rapporte l'agence PANA. L'Union africaine a organisé cette conférence en partenariat avec le gouvernement congolais et le programme des Nations Unies pour l'environnement pour mettre sur pied une stratégie et un plan d'action qui feront l'objet d'un examen lors du prochain sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Le Burkina Faso, dont le sol est riche en or, investit dans le secteur minier aurifère depuis 2009. Une délégation gouvernementale se rendra prochainement à Montréal pour un grand forum annuel qui regroupe les professionnels du secteur minier, a dit à la Voix de l'Amérique Félix Fanon, directeur des services aux entreprises à la Chambre du commerce et de l'industrie.
L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités donc, de nos entreprises afin qu'elles soient à mesure de fournir quelques biens ou des services donc, à des entreprises minières installées au Burkina Faso.
Le Cameroun a procédé mardi à l'inauguration de la centrale au gaz naturel de Bassa Logbaba. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atangana Kuna, qui présidait la cérémonie, a déclaré que cette nouvelle centrale était l'aboutissement d'un travail collectif dont le but est d'améliorer l'offre énergétique du pays.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
En football, Luis Fernandez débarque en Guinée.
L'ancien international français et ex-entraîneur du PSG, Luis Fernandez, âgé de 55 ans, a annoncé mardi qu'il devenait le sélectionneur du Sili National de Guinée. Ce fut long à se dessiner, mais j'ai décidé de bien prendre mon temps avant de m'engager, a-t-il expliqué sur Bell Sport, dont il est consultant. Nous avons pris le temps de discuter du staff. Je serai accompagné d'Amara Simba et Kaba Diawara. Mon objectif est la CAN 2017. En fonction de mes résultats, on verra comment se passera la suite de l'aventure. En tant que joueur, Fernandez a notamment gagné l'Euro 1984 avec la France. En tant qu'entraîneur du PSG, il avait notamment gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe, ex-C2, aujourd'hui disparu, en 1996. Il n'a plus entraîné depuis la fin de son contrat au poste de sélectionneur d'Israël en 2011.
Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal et Madagascar fixés sur leur sort.
Le tirage au sort a été effectué ce mardi pour ce tournoi qui aura lieu au Portugal. Dans le groupe D, Madagascar, champion d'Afrique, jouera contre la Russie, le Paraguay et Tahiti. Dans le groupe A, le Sénégal se mesurera au pays organisateur, le Portugal, mais aussi au Japon et à l'Argentine. Dans le groupe B, Brésil, Mexique, Espagne, Iran. Groupe C, Suisse, Oman, Italie, Costa Rica.
À Madrid, la perle norvégienne va peut-être fouler la pelouse de Santiago Bernabéu pour la première fois.
L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a convoqué pour la première fois le jeune prodige norvégien Martin Odegaard dans le groupe contre Almeria ce mercredi. Le joueur de 16 ans est présenté comme la star de demain pour le football mondial. Et pour terminer, Bagassi, la suite des playoffs du championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Oui, les Houston Rockets se sont qualifiés hier soir pour le prochain tour des playoffs en prenant facilement le dessus sur les Dallas Mavericks. Les Rockets ont remporté la 4e victoire décisive lors du match numéro 5 disputé dans leur salle sur le score sans appel de 103 à 94. San Antonio a battu les Clippers 111 à 107. La série est menée en ce moment par les Clippers 3-2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Allez, on entame la partie magazine de cette édition par les dossiers du jour. En RDC, les autorités du Nord Kivu tirent la sonnette d'alarme sur une nouvelle rébellion en formation à Kampala, en Ouganda. Et le gouverneur de cette province a affirmé lors d'une conférence de presse que la nouvelle rébellion, dénommée Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo, est constituée des ex-CNDD et des M23. Eddie Isango a justement joint à Kampala le président du mouvement M23, Bertrand Bisimwa.
Nous n'avons pas d'intérêt pour le moment et au stade actuel de mener une quelconque rébellion, même si nous savons que cela est de notre droit, d'autant plus que les problèmes de notre pays, les problèmes du Kivu, nous devons à un certain moment les prendre nous-mêmes en charge et les résoudre, étant donné que le gouvernement congolais est incapable de les résoudre. Mais au stade actuel, je peux vous rassurer que nous ne sommes dans aucune entreprise rebelle.
Toutes les raisons que vous évoquez par rapport aux revendications que vous posez ne justifieraient pas de votre part justement la mise sur pied d'une nouvelle rébellion, parce qu'on sait, au Congo c'est comme ça, les rébellions naissent parce qu'il y a des problèmes qui n'ont jamais été résolus.
Ce qui se passe au Congo actuellement, le M23 n'y est pour rien. Le M23 se trouve en Ouganda, cantonné en Ouganda, cantonné au Rwanda, désarmé même. Le M23 n'a aucun militaire sur le territoire congolais. Le M23 n'entreprend aucune entreprise rebelle pour l'instant dans notre pays. Si le gouvernement congolais ne veut pas résoudre les problèmes des sociétés, si le gouvernement congolais ne veut pas répondre positivement aux engagements qu'il a pris, aux obligations qui lui incombent, qu'il a prises à travers les déclarations de Nairobi, à travers l'accord cadre, parce que ce sont des engagements qui concernent la résolution des problèmes des sociétés.
Les élections approchent, mais vous êtes encore à l'extérieur du pays. Est-ce que ça ne serait pas là une raison pour vous de forcer la main au gouvernement, d'être impliqué dans ces processus, parce qu'on enregistre déjà des candidats pour les élections régionales, provinciales?
Les élections n'ont jamais été une finalité pour les M23. La finalité pour les M23, c'est la résolution des problèmes des sociétés qui se posent dans le pays. Nous ne nous sommes pas battus pour participer aux élections.
Voilà, c'était Bertrand Bisimwa qui répondait aux questions d'Eddie Isango.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au Burundi. Impossible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, mais le pays en émoi et rappelle les heures sombres de la guerre civile. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission à 19h TU sur VOA Afrique.
Dans le nord-est du Mali, les milices d'autodéfense du Gatia, proche de Bamako, ont chassé lundi les hommes du MNLA de la ville de Menaka. Pour la coordination des mouvements de l'Azawad, à laquelle appartient le MNLA, c'est une rupture du cessez-le-feu. Les populations de Menaka sont sorties massivement pour célébrer le départ des rebelles Touareg. Idriss Fall a joint Bourema Mahmoud Babi, l'organisateur de la manif de Menaka.
On a organisé cette marche pour témoigner notre attachement, notre appartenance à la République du Mali. Et le soutien au Gatcha nous a libéré des jours de la pure cauchemar.
Mais l'AMINUSMA demande au Gatcha de se retirer de la ville.
Non, l'AMINUSMA ne peut pas demander au Gatcha parce que l'AMINUSMA a compris que la population avec Gatcha. L'AMINUSMA a compris que c'est Menaka qui a demandé au Gatcha de venir. Le Gatcha qui est là, ce n'est pas le Gatcha de guerre, c'est le Gatcha des enfants de Menaka. Ils sont tous natifs de Menaka. Grandis à Menaka, ils ont leurs parents, leurs mères et leurs familles et leurs femmes à Menaka. Ni MINUSMA, ni Berkane, ni les Nations Unies aujourd'hui ne peuvent pas s'interférer dans la gestion de la population de Menaka, car on dirait les pires souffrances à un moment donné de l'histoire durant pendant un an. Si la MINUSMA va faire ça, ils vont nous amener tout droit à la guerre civile.
J'ai dit, c'est une violation du cessez-le-feu conclu à Alger et celui qui était conclu auparavant.
Non, nous, on parle de violation du cessez-le-feu.
lorsqu'une population appartient à la ZAWAD, la population ne mène à qu'à l'amusement. Moi, le commandant de l'amusement m'a dit de moi à lui que cette mobilisation qu'il l'a vue, il ne l'a jamais vue dans sa vie. S'il y a le cessez-le-feu, c'est l'Emnela qui a violé. Parce que c'est le même Malien qui était là, et ce n'est pas la complicité de l'administration, ce n'est pas la complicité des individus mal intentionnés que l'Emnela a rentré. Sinon, l'Emnela ne peut jamais rentrer en Mer.
Et qu'est-ce que vous allez faire du pré-accord d'Alger qu'on devrait signer le 15 mai à Bamako alors?
Non, le pré-accord du 15 mai, ça c'est nous on ne l'appelle plus pré-accord. Les accords, il y a eu combien de fois, on a tout en dirige. C'est la population de Menaka qui a demandé aux enfants de Menaka qui sont au Gacha de venir les libérer. On est en démocratie. Et la démocratie, c'est la volonté du peuple. Aujourd'hui, les populations sont sorties, tout le monde a vu, l'administration a vu. Le commandant de l'administration a été prévu en gros par la population et a vu plus de 2000 personnes qui sont sorties au collège d'habitude, c'est 7-10 personnes qui sont. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que où se trouve la vérité. Et on a demandé seulement à l'administration de faire un bon rapport, de ne plus faire des rapports falsifiés, de ne plus censurer la vérité. Parce que, quel que soit le mensonge, la vérité l'attrapera un jour.
Voilà, la vérité l'attrapera un jour au propos de Bourayma Mahmoud Babi, l'organisateur d'une manifestation à Menaka.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Après les attaques terroristes du 2 avril qui ont tué 148 étudiants à l'université de Garissa au Kenya, des voix s'élèvent partout pour dénoncer le terrorisme en Afrique. Ici, aux États-Unis, des Africains de la diaspora demandent aux leaders religieux musulmans de rompre le silence et de dire la vérité aux terroristes qui utilisent le nom de l'islam pour tuer des innocents. George Leonard Sagno.
Oui, le débat fait rage au sein de la communauté africaine et les avis semblent bien partagés. Yves Bambara, étudiant burkinabé en Sciences Po à l'université NYU de New York.
Je pense que le mal du terrorisme a pour trois causes principales. La première cause, c'est le problème de développement. La deuxième cause, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il faudrait que les leaders religieux, les musulmans, les imams, commencent à donner, à recoder même les discours religieux dans les différentes mosquées, dans les différentes rencontres. Parce qu'il est inadmissible qu'on dise que ces individus-là ne sont pas des musulmans, pendant que partout, ils se réclament des musulmans, ils ont le Coran en main, ils sont en train de salir le nom de la religion. Une bonne religion, une religion de paix et d'amour. Finalement, la troisième responsabilité, comme je le disais, ce sont nos dirigeants, nos chefs d'État, qui ne font pas de leadership de la gouvernance démocratique, qui ne viennent que s'approprier des biens du pays pour leur plaire.
Pour Aboubakar Diaby, un Guinéen vivant dans l'état de New Jersey, il ne faut pas jeter l'anathème sur tous les musulmans, même s'il reconnaît qu'il y a des problèmes aujourd'hui.
Vraiment, le terme est important, c'est intéressant parce que j'ai écouté celui qui vient d'intervenir, vraiment, il a bien parlé. Bon, aujourd'hui, les extrémistes islamistes, ils sont en train de salir le nom de l'islam et pourtant, ils se réclament musulmans. Mais ce n'est pas l'islam qui l'autorise. Parce que oui. Si tu te réclames musulman, bon alors il faut suivre les principes, ce que l'islam demande. Mais si toi tu fais ta volonté et tu agis, ce que l'islam ne demande pas, alors moi je dirais que tu n'es pas musulman.
Pour sa part, David Touré, activiste politique guinéen, replace le terrorisme dans son contexte et dénonce les pétrodollars qui le financent.
En ce qui concerne le terrorisme, franchement, c'est un sujet qui est très compliqué, vu que nous n'avons pas assez de moyens, comme les Européens, pour lutter arme à arme contre ces terroristes, nous savons, hein, d'où ils tirent leur argent, c'est des raquettages, c'est aussi des grands magnats, des multinationales qui les financent dans certains coins. Sinon, comment se fait-il qu'au Nigeria, qu'un Boko Haram face à un régime très puissant, face à la superpuissance africaine, qui n'arrive pas jusqu'à présent à maîtriser ce Boko Haram.
De son côté, Landry Kio, leader de la société civile ivoirienne, appelle les gouvernements africains à promouvoir l'éducation, l'emploi des jeunes, des facteurs qui pourraient, selon lui, décourager le recrutement des jeunes par les groupes terroristes. Comme on le voit, le terrorisme est un sujet complexe et son éradication demande des efforts de la part des gouvernements, mais aussi l'implication de tous les citoyens.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Les opposants et les supporters du mariage homosexuel ont plaidé ce mardi devant la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci doit décider si le mariage homosexuel est constitutionnel ou non. Le mariage gay est actuellement autorisé dans les deux tiers des 50 États américains ainsi que dans la capitale Washington, D.C. L'affaire passionne les militants des deux camps qui se sont mobilisés en grand nombre ce mardi devant la Haute Cour. Le reportage de Jim Malone est présenté ici par vous, Michel Joseph.
C'était un choc de culture devant la Cour suprême. Partisans et adversaires du mariage homosexuel n'ont pas ménagé leurs efforts pour se faire entendre au moment où la Cour suprême doit décider si les homosexuels américains ont le droit constitutionnel de se marier. Pour Tom et Darren, mariés depuis 2008, la question est très personnelle. La vérité finit par triompher, dit-il. Les gens voient qu'il s'agit bien de relations amoureuses. Une partie porte sur le sexe, oui, mais 99% concerne toutes les autres activités quotidiennes des Américains, factures, enfants, etc. Tom Cicero est lui aussi supporter du mariage des homosexuels. Ceci va valoriser notre mariage, dit-il, parce qu'il ne s'agit pas de nous seulement, il s'agit de tout le monde. Pour J.P. Singh et Charles Johnson, un couple marié, il s'agit également d'envoyer un signal fort au reste du monde. Nous ne pouvons pas être hypocrites en prêchant la démocratie et les droits humains pour le reste du monde et refuser la même chose à nos propres citoyens, dit J.P. Singh. Les opposants au mariage gay n'étaient pas en reste, à l'image de ce prédicateur du Texas, Caleb Hickam. Il a déjà été déterminé que Dieu a dit que c'est entre un homme et une femme, et que si nous allons contre Dieu, que Dieu va juger notre pays, dit-il. Ce mardi, les opposants au mariage homosexuel semblaient en infériorité numérique devant la Cour suprême, ce qui ne constituait nullement un problème pour Nino Burnett. Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Je suis prêt à mourir pour cela. Je ne vais pas faire de compromis, dit-il. Les sondages d'opinion montrent que le soutien pour le mariage gay a augmenté à travers le pays ces dernières années, bien que beaucoup de conservateurs sociaux demeurent encore de farouches opposants. La décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité du mariage gay est attendue en fin juin.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Voilà, il ne reste plus le temps que de vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction de VOA Afrique. John Allison était à la technique, Michel Joseph à la production. Bagassi Koura au micro. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
cœur de l'info.